la semaine prochaine de nous donner tous les acronymes et bien de ces équipes de football. Attention, nous serons très exigeants
et vraiment très à l'écoute. Hein.
Nous sommes les premiers auditeurs de nos propres voix.
Tout à fait.
Voilà, c'est tout pour moi, chers auditeurs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un sprint des scores. D'ici là, que le sport soit avec vous.
Allez-y.
Ben, merci beaucoup pour cette sublime chronique. Moi, je me permets juste, c'était pas du tout prévu,
non.
Mais vous ne parlez pas d'un sport que moi j'apprécie énormément, qui est le cyclisme professionnel sur route. Et ce week-end, il y avait la première grande classique qui s'appelait l'Estrade Bianche et la victoire de Pogacar. Juste derrière, Paul Sexas, le Français, qui monte en flèche. On attend le Tour de France avec impatience pour voir ce que ça va donner.
Merci de ces précisions. Effectivement, on essaie de traiter du sport local, comme vous le connaissez, comme vous le savez tous, mais il est bon valoriser quand même. Johan, des très belles courses, bien évidemment. Merci Johan pour votre participation. On vous retrouve mercredi prochain, bien évidemment, dans la matinale, si tout se passe bien, mais surtout sinon mardi prochain entre 18h et 20h dans Kubiketa Station.
Voilà, c'est ça. Alors, petite nouveauté, à savoir pour les gens qui écoutent tout de suite là, la prochaine, c'est mardi prochain, et il y aura aussi le mardi d'après. Voilà.
Ah, super, deux émissions à la suite. C'est génial. Monsieur Naïm, quelque chose à nous dire en cette fin
demain, 18h, profitez de l'émission La Voix des Municipales. Et puis passez une bonne journée.
Voilà, avec des magnifiques explications sur le déroulé des élections.
Ça ne sera pas une émission interview. C'est vrai que j'ai oublié de préciser. Ce sera une émission débat, explication de comment se passe l'élection, comment se passe l'installation du maire, la métropole. Enfin, vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir à l'écouter.
Eh bien, merci. C'est fini. Je dis au revoir.
Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Vous avez la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur la RDC. Le pays doit-il se doter d'une nouvelle constitution? Nous lançons le débat, mais d'abord, le journal international, c'est avec vous Martin Guez. Bonjour.
Bonjour Anne Gomez et à tout de suite. Au 12e jour de la guerre, l'Iran met en garde sa population et se dit prêt à réprimer toute manifestation. Alors que Téhéran dit avoir mené des frappes d'une intensité sans précédent cette nuit au Moyen-Orient. Téhéran, par ailleurs ville morte, où les habitants sont désormais rationnés en carburant et où l'air est devenu irrespirable après des frappes contre des gisements. Nous serons aussi dans ce journal à Alger, où le Parlement algérien adoucit son projet de loi criminalisant la colonisation française. En Pologne, où la guerre politique entre le président et le Premier ministre bloque les grandes orientations du pays. Et puis en France, où le climat politique paraît délétère à 4 jours du premier tour des élections municipales. Ce n'est pas nouveau, nous dira un expert. Au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient, la France triple son soutien humanitaire au Liban et envoie 60 tonnes d'aide alors qu'Israël a de nouveau frappé Beyrouth. Le gouvernement libanais, qui fait désormais état de 760 000 déplacés dans le pays selon son dernier bilan, et près de 500 morts dans des bombardements israéliens depuis début mars. L'Iran, de son côté, a revendiqué cette nuit la plus violente et la plus lourde vague de frappe depuis le début de la guerre. Téhéran, qui a affirmé par ailleurs que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, est sain et sauf. Il aurait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour de l'offensive israélo-américaine le 28 février dernier. Les détails de ses blessures ne sont pas connus. Il n'est pas apparu en public depuis. Les frappes israéliennes qui visent toujours les installations pétrolières en Iran, les habitants de Téhéran qui décrivent ces derniers jours une pluie noire et un air devenu irrespirable. Juliette Petrachevski.
Derrière ces incendies d'installations pétrolières, il y a d'abord la pollution de l'air avec des fumées toxiques. Les combustions très chaudes permettent la formation massive des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés ultra-cancérigènes, des particules fines qui peuvent toucher directement les voies respiratoires des habitants de Téhéran. Vient ensuite la pollution des sols. Pierre-Fort Cateloin est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux.
Il va y avoir déjà une pollution du sol à proximité, donc un impact sur le vivant qui va être loin d'être négligeable, parce que tout ce qui est végétal ou même organique va beaucoup souffrir par la présence de ces corps gras dans les sols. Et puis ensuite, à plus long terme, les micro-organismes vont consommer une partie de ce pétrole. Il y a une partie réfractaire qui va être conservée dans le sol et qui peut rester très longtemps.
Et les composés chimiques peuvent ensuite contaminer les nappes phréatiques et les ressources en eau.
C'est souvent des produits qui sont moins denses que l'eau, donc qui vont s'accumuler au sommet des nappes. Et on va voir ce qu'on appelle en fait une marée noire souterraine. Donc on va avoir aussi des grosses quantités d'hydrocarbures dans les sols qu'on ne voit pas. La propagation du problème sera peut-être beaucoup plus importante via la qualité de l'eau que la partie sol en proprement dit.
Avec des précipitations importantes, cette pollution pourrait être emportée vers la mer et les zones initialement touchées resteront durablement polluées.
L'Iran qui a mené ce matin une offensive de grande ampleur et qui a ciblé un champ pétrolier en Arabie Saoudite et l'Agence internationale de l'énergie propose dans ce contexte un recours sans précédent aux réserves stratégiques de pétrole. Le but est d'enrayer la flambée des prix alors que le prix du baril s'est momentanément envolé au-dessus des 120 dollars cette semaine. Il est retombé cette nuit à 88 dollars dans un marché extrêmement volatile. Résultat d'une crise majeure, estime l'ancien ministre français de l'économie, Éric Lombard.
On est rentré dans une crise grave, mais dont les conséquences doivent pas être comparées à celles qui a résulté de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque en tout cas, si on regarde la France, oui. D'abord, nous n'avons pas de problème d'approvisionnement, ça c'est très important. Le pétrole, le gazole, le gaz, tout cela, on a des réserves et il arrive parce que nous avons diversifié nos sources d'approvisionnement. Le réseau d'EDF, le réseau d'électricité fonctionne. Vous vous souvenez qu'il y a 3 ans, il y avait des centrales qui étaient à l'arrêt. Et puis l'économie est assez solide. Ça, c'est les points positifs. Le point qui est grave, c'est la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz qui se traduit par les prix. Et donc la France va être touchée par cette crise au travers des prix, parce que alors, les prix, il y a un effet mondial immédiat.
Bien sûr.
Et si le détroit d'Ormuz devait être durablement fermé, on va vers effectivement une crise d'ampleur majeure parce que l'impact sur l'économie américaine et sur l'économie asiatique sera majeur.
Éric Lombard qui était ce matin l'invité d'Arnaud Pontus sur RFI. Le président français Emmanuel Macron a lui annoncé que les chefs d'État et de gouvernement du G7 se réuniraient cet après-midi à 14h temps universel en visioconférence pour discuter notamment des mesures à prendre sur la situation énergétique. Toutes nos informations sont à retrouver sur notre fil en direct en une de notre site RFI.fr et à l'instant le président de la FIFA Gianni Infantino assure que l'équipe de football iranienne est toujours la bienvenue pour disputer la Coupe du Monde aux États-Unis au mois de juin. Il se fait le relais de Donald Trump. RFI, il est 10h05 à Goma, en RDC. La grande ville et capitale du Nord Kivu a été la cible d'une attaque de drones ce matin avant l'aube, selon la FCM-23 qui contrôle la ville depuis plus d'un an. Au moins 3 civils ont été tués. L'attaque de drones a ciblé une maison du quartier résidentiel Katindo, au cœur de Goma. Parmi les victimes, selon la FCM-23, une membre du personnel de l'UNICEF de nationalité française. L'actualité africaine de ce mercredi 11 mars, c'est aussi l'Algérie qui fait un pas vers Paris, alors que le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, était à Alger. Il y a peu, le Parlement algérien a définitivement adopté une version amendée de sa loi visant à criminaliser la colonisation française. Alger retire notamment de son projet de loi initial la demande d'excuses officielles et de réparation par la France. Sofiane Amazian.
Lors de sa discussion à l'Assemblée nationale en décembre dernier, le projet de loi visait à faire reconnaître par l'État français la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et des tragédies qu'il a engendrées. Les relations franco-algériennes, au point mort après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, se sont réchauffées légèrement depuis cette rencontre en février entre Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Côté législatif, le Conseil de la Nation a émis des réserves courant janvier, notamment sur les clauses concernant les excuses et les réparations françaises. Une commission paritaire s'est ensuite chargée d'amender le texte pour changer ce qui ressemblait à une offensive juridique contre la France. Parmi les autres modifications qui concernent la politique intérieure, le changement de statut des harkis, qualifiant de trahison et non plus de haute trahison leur collaboration avec l'armée française. Une loi adoucie, mais pas vidée de sa substance, la preuve avec le maintien des dispositions concernant des compensations pour les victimes d'essais nucléaires français en Algérie.
Et loin d'Alger, direction la Pologne à présent, où le Premier ministre et le Président s'affrontent autour du plan européen SAFE, programme qui doit octroyer 44 milliards d'euros de crédits à investir dans la défense du pays auprès d'entreprises d'armement nationales et européennes. Mais ça, c'était en théorie, Adrien Sarlat.
Le veto présidentiel était attendu, mais sa perspective déstabilise le Premier ministre Donald Tusk, qui se dit bouleversé.
Ce serait une erreur impardonnable. Je ne comprends pas comment, dans une situation de conflit global, et alors que la guerre est à notre frontière, il est possible d'envisager de bloquer un programme comme SAFE, ces milliards d'euros pour l'armée et l'industrie d'armement polonaise.
Le chef du gouvernement dit déjà plancher sur un plan B pour sauver ses fonds, car le président, affilié à l'opposition conservatrice et nationaliste, socialiste refuse d'adopter un programme qui prendrait la forme d'un crédit. Il se dit prêt à présenter un plan alternatif intitulé Safe 0% dont les contours demeurent encore flous. Le député Przemysław Czarnek, lui aussi issu du PiS, préférait d'ailleurs ne pas avoir à investir en Europe, mais plutôt continuer d'acheter de l'armement américain et coréen, comme Varsovie a pris l'habitude de le faire.
Malheureusement, l'industrie militaire européenne est à l'arrêt. Or, l'objectif du programme n'est pas de soutenir telle ou telle industrie d'armement en particulier, mais il s'agit d'acheter immédiatement du matériel qui va faire peur à l'agresseur qui présente une menace pour notre sécurité. Et à cet égard, ce programme est malhonnête.
Le veto du président devrait amputer le budget de 2 milliards d'euros destiné aux forces de l'ordre et aux infrastructures stratégiques. Adrien Sarlat, Varsovie.
Enfin, en France, le compte à rebours est lancé avant les élections municipales, premier tour dimanche pour ce scrutin local crucial. Un peu plus d'un an de la présidentielle, mais la campagne se déroule dans un climat tendu. Entre des insultes racistes à Marseille, une agression physique à Clermont-Ferrand et des menaces de mort à Strasbourg. Un climat toutefois très loin de la violence politique des années 50 ou des années 60, selon le politologue Jean Pétaut.
Aujourd'hui, il y a une amplification évidente par l'écho des réseaux sociaux, mais menacer un candidat de mort, c'était tout à fait classique et ça n'avait strictement rien d'exceptionnel, ça faisait pas les titres des journaux. Les bagarres entre couleurs d'affiches à coups de manche de pioche, y compris d'ailleurs à coups d'armes à feu, c'était tout à fait commun dans les années 50, 60, disons que ça a décru à partir du début des années 80. Une des explications qui peut être donnée à la décrue des affrontements physiques pendant une campagne électorale, c'est tout simplement la baisse des militants, la baisse du nombre de militants. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus d'affichage, comme on dit, en dehors des panneaux prévus à cet effet, les panneaux de propagande électorale.
Les propos recueillis au téléphone RFI de Victorien Villaume. Enfin, lui fracasse la raquette aux États-Unis. Bam Adebayo explose tous les compteurs. 83 points à lui tout seul. Deuxième meilleure performance de l'histoire de la NBA. Une victoire 150 à 129 de son équipe du Miami Heat face aux Wizards de Washington. Lui fracasse tous les micros, c'est Juan Gomez qui arrive.
J'en étais sûr. Merci Martin Guez, bonne journée. Restez avec nous dans 30 secondes, vous avez la parole.
Ce vendredi sur RFI, les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud.
Les Slovènes sont appelés aux urnes le 22 mars.
This is England. Times are hard and the ends, man. When will it fucking end, man? I'm not a grouse, but I heard them say, what a life without a fucking wife. Theresa May. Do you know how it feels to count days and hours till payday? I said, Theresa.
This is England! This is England. my hand on the wheel and turn the radio on. Don't care about the destination, gonna drive till the break of dawn. Spectator to the world outside as it passes by. Think slow. I don't wanna run, don't wanna live the fast life, don't wanna live like them, it doesn't feel right. They become so blind to the beauty that's around them. I drive 1,000 miles to escape the mayhem. The spectator to the world outside as it passes by. Oh, yeah, yeah, yeah.
Aujourd'hui, tout le monde écoute la radio. Et combien de gens savent finalement que ce droit et ce choix qu'ils ont, il est né de luttes de gens militants qui, à un moment donné, ont été à l'encontre du droit pour acquérir plus de droits.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
We'll be right back.
Danser de joie sur une bande dérapante. J'ai l'humeur du ciel, je n'attends rien de personne. Je fasse que mes années de souffrance n'amènent aucune séquelle. J'ai rencontré les gens, certains m'ont fait sourire. Notre vomir au point d'en effacer le souvenir. J'ai pas versé une larme, parce que la mort m'a dépouillé. Je suis resté debout, avec un stylo comme ce larme. Mon sort n'est pas différent, non. Mais on le vit pas pareil vraiment, si c'est la vérité qui te dérange. J'ai vu cet ambitieux rêvant au destin géant. La bouche ouverte dans le torse de trou béant. Ma mère m'a dit mon fils, puisque tu veux voler, voici tes ailes, il faut de la passion pour les coller. La rue m'a dit mon gars, t'es rentré délové. Voilà de plaques et t'as moins de moi pour les écouler. J'ai écouté ma mère, tu sais qu'elle avait raison. Je n'ai jamais ramené les ennuis à la maison. Je n'aurais pas supporté un seul jour en prison. Ici l'enfer où des anges soufflent sur les tisons. Et pour ça, je vends ces rimes comme un savon. On ne chevauche pas le destin à coups de bâton. On fera couler cet encre, celle et ceux qui attendent, je t'assure. Aucune tempe au bout du canon et tous les jours. Je vends ces rimes comme un savon. Ils vont tout pleuve, tiens le spot, volume à fond. Du mouvement intelligent, furtif et diligent. On n'attend pas la chance, on crée l'occasion. Et pour ça, je vends ces rimes comme un savon. Yes. Je vends ces rimes comme un savon. Mes amis disent qu'ils regrettent l'époque de l'école. Perso, pas un moment. Les profs ne me lâchaient pas. Ils me pensaient arrogant, je m'emmerdais. Ce n'est pas apprendre que je trouvais chiant. C'est leur manière d'enseigner qui me paraissait puante. Des coups de main donnés à ceux qui étaient brillants. Et des grands coups de pied à ceux au sol, rabaissés en criant. J'aurais dû m'accrocher au cours, les absences empilées. Le rap m'a fait sauter dans le vide sans filer. Fort heureusement, j'ai croisé des personnes qui m'ont montré le chemin. Certains diront que c'est la chance et d'autres le destin. Je sais pas, ce bordel dans ma vie, peut-être ça n'allait pas chez moi. Tu faisais chier en te soulevais juste devant chez toi. Je peux pas piquer ta place, la mienne me va, te casse. Je vois pas un salopard lorsque je me rase devant la glace. On nous compare à Cendrillon et son carrosse. Chez ceux qui ont des certitudes, ils n'ont jamais écouté les paroles. Parfois devant le danger on ressent l'attirance. Et côtoyer la mort de près, ça apprend le silence. Ouais, ce qui tombe dans mon oreille ne sort pas par ma bouche. Ce qui sort de ta bouche, je le ferai par ton cul, c'est pareil. Je vends ces rimes comme un savon. On ne chevauche pas le destin à coups de bâton. On fera couler cette encre pour celles et ceux qui attendent, je t'assure. Aucune tempe au bout du canon. Et tous les jours, je vends ces rimes comme un savon. Ils vont tout pleuve, tiens le spot, volume à fond. Du mouvement intelligent, furtif et diligent. On n'attend pas la chance, on crée l'occasion. Et pour ça, je vends ces rimes comme un savon.
What do you think about life? What do you think about music? What about hate? And what about love?
Love.
What would the world be without rhythm? A meter, a tempo, and a beat. Feel the beat. It has silence and strong rhythm. The world is made to be seen and heard and felt.
Comme moi, triturer les boutons de votre transistor, vous avez peut-être pu entendre
Principe Actif.
Et si les autorités savaient où se trouve l'émetteur de cette radio clandestine, elles auraient pu interrompre cette émission.
Principe Actif à Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.